Radio Capi.
Oh, Capi.
Le journal. Patience Ngalula Mbombo Banangi.
Au sommaire de ce journal, comment résoudre la laborieuse question du déficit en énergie électrique que connaît la RDC? Cette question est au centre de la conférence énergétique débutée ce jeudi à Kolwezi dans les Lualaba, réunissant les experts en la matière venus de plusieurs pays du monde. Explosion du 3 mai dans les sites des déplacés de Lushagala au nord Kivu. Au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes suivent des soins à l'hôpital Bethesda Sebeka Ndosho. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue en attendant l'organisation des obsèques. L'invité de ce journal est Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC. Le programme des Nations Unies pour le développement finance les travaux des programmes de développement de 145 territoires dans 9 provinces, 6 ouvrages déjà réalisés, dont les Maniema sur les 303 attendus. Bonsoir. L'électricité est au centre de la conférence dont les travaux ont démarré ce jeudi à Kolwezi dans les Lualaba. Cette rencontre qui réunit les participants venus de plusieurs pays du monde voudrait fournir des pistes de solutions pour réduire davantage les déficits énergétiques que connaît la RDC. Notons que cette 7e conférence est organisée par le FEC. Les détails avec Jean Gandou.
La conférence ouverte ce jeudi a pour objectif d'émettre des réflexions sur comment résoudre l'épineuse question du déficit en énergie électrique que connaît la RDC. Dans l'espace Grand Katanga, les entreprises minières sont le plus concernées. Pour l'initiateur de cette conférence, les participants devraient suivre de près l'évolution de la desserte en énergie électrique et conjuguer ainsi les efforts pour qu'à terme l'électricité ne soit pas un grand problème pour la RDC. Eric Monga souhaiterait qu'à l'issue des travaux, des recommandations soit faite pour la réalisation de cet objectif. Pour sa part, le ministre provincial de l'énergie du Lualaba a indiqué que le secteur de l'électricité est le moteur du développement durable. Pour lui, l'énergie contribue à l'amélioration des conditions sociales de la population et à la relance des activités économiques et surtout à l'industrialisation des nations. Pour les présidents de la FEC Lualaba, le secteur minier contribue grandement au développement économique de la province et partant du pays. Pour cela, des solutions idoines devraient être prises pour notamment répondre à leur demande en énergie électrique qui du reste est sans cesse croissante.
Et puis, cette analyse sur les budgets parlementaires, les bifaces du Parlement congolais, un contrôleur a contrôlé, c'est l'intitulé du nouveau rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFEDEL. Cette étude met en lumière les caractères budgétivores des deux chambres du Parlement. À titre illustratif, les dépenses de l'organe législatif congolais sont estimées à 1,1 milliard de dollars entre 2021 et 2023. C'est un dépassement de 298,9 millions, révèle ses rapports. Cynthia Bachizina Bizana a assisté à sa présentation. Suivez son reportage.
CREFEDEL dit avoir compilé environ 500 documents, un travail élargi aux entretiens avec le personnel administratif ainsi que des assistants parlementaires dont voici quelques résultats majeurs. Valérie Madianga, coordonnateur du CREFEDEL.
On a décaissé par exemple 90 millions de dollars sur les besoins de 4 millions chiffré dans la loi de finances ou l'achat des véhicules. Deuxièmement, le Parlement a construit des bureaux qui devraient abriter les commissions parlementaires. Ces bureaux ont été achetés, mais personne ne sait où ça se trouve. Vous avez également le recrutement abusif du personnel. On a recruté par exemple à l'Assemblée nationale et plus de 2000 personnes. Et pourtant, la loi, le règlement intérieur n'autorise que 157 personnes qui pouvaient accompagner le bureau de l'Assemblée nationale. Au Sénat également, c'est pareil, c'est plus de 800 au lieu de 157.
L'ONG dit avoir envoyé un courrier aux deux chambres du Parlement sans jamais avoir de réponse de leur part. In fine, CREFEDEL recommande à l'IGF et à la Cour de compte de diligenter une mission mixte à l'Assemblée nationale en ce qui concerne sa gouvernance budgétaire.
Et puis cette nouvelle, des milliers de foyers congolais ont l'accès à l'électricité, plus de 11 millions de Congolais ont accès à la santé et à l'éducation et plus de 2 millions et demi d'hôpitaux et écoles ont accès à l'Internet grâce au soutien de l'Union européenne. C'est ce qu'affirme ce jeudi à la presse l'ambassadeur Nicolas Berlanga à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Europe, tout en reconnaissant les hauts et les bas dans la coopération bilatérale entre l'Europe et la RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne souligne tout de même que trois quarts des Congolais souhaitent voir l'Union européenne augmenter des sanctions contre les personnalités congolaises selon une enquête. Pour renforcer la confiance des Congolais en la coopération européenne, l'ambassadeur de l'Union européenne promet des programmes d'investissement axés sur les modèles européens. Nicolas Berlanga Martinez est au micro de Michel Kifindangoy.
Je vais rappeler l'énorme action qu'on a menée ensemble depuis 60 ans dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'électricité, maintenant de l'accès à Internet, des réformes du secteur de sécurité, de la préservation de la nature. Donc aujourd'hui, il nous offre déjà des réalités, mais les demain, probablement, va nous ouvrir aussi d'autres réalités. Et ces autres réalités doivent être très liées aux investissements, au secteur privé, à la transformation énergétique, à la transformation numérique, à la création d'emplois, aux infrastructures, à l'agriculture. Et on prépare déjà des projets dans ce sens, avec un modèle européen qui est particulier par rapport à ce modèle qui offre d'autres partenaires. Par exemple, dans le sens de demander qu'une partie de la transformation se fasse sur place, en mettant l'accent sur la formation professionnelle. Il ne faut pas faire venir de l'expertise étrangère. Il faut former des Congolais aussi à avoir cette expertise. Par exemple, en respectant l'environnement, à faire que les communautés voisines de tous ces projets en bénéficient.
Au Nord Kivu, au moins 27 blessés sur la trentaine des victimes de l'explosion survenue dans les sites de déplacés de Lushaga le 3 mai dernier suivent des soins à l'hôpital Bethesda CB Kandosho, appuyé par les CICR. Ces personnes témoignent avoir vécu l'horreur ce jour-là alors qu'elles étaient tranquilles dans leurs abris. Parmi ces victimes, des familles complètement affectées par des morts et des blessés, une situation traumatisante. Entre-temps, les corps des défunts sont encore à la morgue une semaine après incendie et en attendant l'organisation des obsèques. Sifa Maguru a rendu visite à ses blessés. Voici son reportage.
Parmi ses blessés, une jeune femme qui a perdu ses trois enfants, dont un bébé de 2 semaines, alors qu'elle-même et son fils aîné de 7 ans sont grièvement blessés par des éclats. Explication de sa belle-sœur qui est gardée malade.
Au moins 4 bombes sont tombées et la 5e est tombée à l'église CEPAC bloc 4. On nous dit que ma belle-sœur est morte avec ses 4 enfants. Jojo a reçu des éclats au ventre, sur toutes les 2 jambes, les mains et au visage. Nous sommes allés dans d'autres hôpitaux. On nous dit qu'on a reçu un bébé décédé et on a compris que c'est notre enfant parce que la maman venait d'accoucher il y a 2 semaines.
La plupart de ces blessés sont venus des Sake, Chacha et alentour. Élisée Hangi, une autre mère qui a 2 enfants blessés, nous raconte comment ils ont été surpris par cet incident.
Nous étions à la maison sans s'attendre à quelque chose. Subitement, nous nous sommes retrouvés par terre. Beaucoup de gens ont perdu connaissance, moi-même aussi. On s'est retrouvés ici à l'hôpital. Et pour arriver ici, c'était tout un problème. Pas de transport et des coups de feu retentissaient.
Toutes ces familles sont encore sous les chocs après avoir vécu cette explosion et ne souhaitent qu'une chose, rentrer dans leur village, même si ce n'est pas garanti. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pour faire face à cette situation d'urgence, le CICR a dû augmenter sa capacité d'intervention à l'hôpital CBK afin d'assurer une bonne prise en charge aux blessés qui affluent dans cette structure spécialisée en chirurgie de guerre. Sur place, parmi les blessés qui suivent des soins, certains sont déjà stabilisés, tandis que d'autres présentent encore des traumatismes. Aliona Sinenko, porte-parole du CICR, explique au micro de Sifa Maguru.
Vendredi dernier, nous avons reçu 27 patients. 26 entre eux, c'était les femmes et les enfants. Beaucoup d'entre eux sont arrivés ici en état très très grave, parce qu'on ne parle pas uniquement des blessures par balle, mais on parle des blessures causées par des engins explosifs. Donc ce sont des blessures très complexes qui prennent qui font beaucoup de dégâts. Et, il y a beaucoup de défis. Si vous avez vu, il y a des tentes. Il y a des tentes que nous avons installées dehors. Et ça montre que, en fait, depuis déjà plusieurs mois, l'hôpital il travaille au-dessus de sa capacité, que nous n'avons pas assez d'espace pour tous les patients dans les salles. Donc, mais c'était la seule chose qu'on pouvait faire rapidement pour pouvoir accueillir tous ces patients. Donc oui, la situation reste difficile. Notre équipe continue de travailler. Au moment donné, ils ont passé d'une équipe chirurgicale à trois équipes chirurgicales qui travaillaient aussi les week-ends, les jours fériés, sans arrêt.
Pendant ce temps, en Ituri, des centaines de familles ont regagné leur village d'origine et les activités agricoles et économiques ont repris dans trois groupements sur les tronçons Komanda-Luna dans les territoires d'Irumu. Ce constat est fait mercredi par les acteurs de la société civile locale dans le cadre de l'évaluation de l'accord de paix signé en juin 2023 entre les communautés locales ainsi que les groupes armés locaux. C'était grâce à l'appui de la MONUSCO pour la cohabitation pacifique et la restauration d'une paix durable dans cette entité. Isaac Remoyope.
Une accalmie s'observe depuis la signature de l'accord de paix entre les communautés Lesse et Nande dans les chefferies de Walese, Vonkutu et Basili, affirment des sources locales. Les groupes armés Chiniatuna et Maïmaï, qui protégeaient les intérêts de ces deux ethnies respectives, ont renoncé aux violences qui avaient entraîné les déplacements des populations d'environ 70 villages le long de l'axe routier Komanda-Luna. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH soutient que plus de 800 familles ont déjà regagné leurs milliers dans les groupements Bandiango, Bokucho et Bandiamousso. Ces retournés ont repris les activités agricoles dans la zone. Les boutiques et les marchés de vivres sont également opérationnels. Cependant, un retour timide des agriculteurs s'observe notamment à Apindi 1, 2, 3 et Mangiva. La commission de suivi de ces dialogues, composée des ressortissants des deux communautés jadis en conflit des terres arables, poursuit la campagne de sensibilisation pour consolider ces acquis de paix. Cette structure sollicite l'appui du gouvernement et de la MONUSCO, dont une équipe s'était rendue le week-end dernier à Komanda pour évaluer l'impact de cet accord de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, 8 morts et des disparus avec un centre de sentiers saccagé, c'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque des rebelles des ADF dans la localité de Mantumbi en secteur de Benimbaou. La société civile territoriale parle d'un déplacement massif de la population vers des localités du territoire de Mambasa en Ituri jugées sécurisées. Pendant ces temps, l'armée dit être à la trousse de ces rebelles pour tenter de sauver les otages. Dans la province du Sud Kivu, fin ce jeudi 9 mai, de la réception et traitement des candidatures aux élections municipales. La CENI antenne du Sud Kivu constate malheureusement que les candidats conseillers urbains et les bourgmestres ne manifestent pas assez d'engouement. 31 formulaires seulement ont été retirés, mais aucun dossier physique des candidats n'a été déposé au bureau de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial antenne du Sud Kivu déplore cette attitude des candidats qui ne respectent pas le délai. Pius Bikungu pense que la CENI devrait mettre fin aux prolongations pour stimuler les candidats qui excellent dans les retards. Pius Bikungu, dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
C'est depuis le 25 avril 2024 que nous avons ouvert les bureaux de réception et traitement des candidatures des conseillers urbains et de bourgmestres et bourgmestres adjoints. Nous avons déjà vu les gens venir retirer les formulaires. Nous avons jusqu'hier 18 personnes sont venues retirer les formulaires pour les conseillers urbains, tandis que pour les bourgmestres, il n'y avait que 13. Mais jusque-là, il n'y a aucune personne qui a déjà déposé un dossier de candidature. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2024. C'est le dernier jour de réception et de traitement des dossiers de candidature. Nous attendons, peut-être au courant de la journée, il y a encore ceux-là qui vont venir. Je ne saurais pas dire quelles sont les raisons parce que je ne suis pas dans leur cœur, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, peut-être que les partis politiques ne sont pas intéressés. Je ne sais rien dire jusque-là, mais ce que je sais est qu'ils ne sont pas encore venus.
Ici à Kinshasa, l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques, ACOREP, ferme 11 dépôts pharmaceutiques de Kinshasa. Elle vient de retirer aussi du marché 4 molécules médicamenteuses. Elle reproche notamment aux responsables de ces dépôts les non-respects du circuit de distribution, ce qui a un impact, entre autres, sur les coûts des médicaments pour la population. Les produits retirés les sont soit pour leur efficacité réduite, soit pour certains de leurs effets nocifs. Babel Mpongo et Marie-France Munguindou, reportage.
Les dépôts fermés sont Saint-Sauveur, Sofaco, Extra Plus, Africare, Strapharma, Mani, Air, Newspam, Vantari Healthcare, KinMed et Bonne Santé, tous situés à Kinshasa. Le directeur général de l'ACOREP, Christian Toumba, explique.
Les dépôts sont censés s'approvisionner auprès des fabricants, par la suite distribuer les médicaments vers les pharmacies. À partir du moment où un dépôt pharmaceutique s'approvisionne auprès d'un autre dépôt, c'est une rupture dans les circuits de distribution. Et cela n'est pas autorisé. Ça a beaucoup de conséquences. Pour la qualité du médicament, pour la traçabilité. C'est une fermeture provisoire. S'ils ne régularisent pas leur situation, ils vont rester fermés définitivement.
Les quatre molécules retirées du marché sont ranitidine, méprobamate, mais aussi les formes orales de kétoconazole et chlorafénicol. Christian Toumba.
À partir du moment où un médicament n'arrive plus à soigner, la COREP est dans l'obligation de retirer du marché et de proposer des alternatives.
Les grandes pharmacies affirment ne plus avoir ces produits. Avant le retrait, nous a-t-on dit, le message. Les messages d'alerte sont envoyés longtemps avant pour ne plus s'en procurer. Quant aux petites officines, le DG de la COREP affirme que leurs inspecteurs sont sur le terrain pour cela. Mais il annonce aussi pour bientôt une autre opération visant cette fois à fermer les officines pharmaceutiques non en règle. Cela, même à la cité.
Actualité internationale. De nombreux afro-descendants du monde entier pourraient bientôt acquérir la nationalité béninoise. Le gouvernement a présenté mercredi 8 mai en Conseil de ministres un projet de loi qui en définit les conditions d'obtention. Ces personnes ne pourraient ni voter ni travailler dans la fonction publique, mais il s'agit d'une reconnaissance à des éventuels descendants des Béninois victimes de la traite négrière jusqu'au 19e siècle, car le Bénin a été l'un des pays qui ont le plus subi ces crimes.
L'invité.
Damien Mama est notre invité. Il est le représentant résident du PNUD en RDC. PNUD qui finance les travaux du programme de développement de 145 territoires dans 9 provinces a reçu des Africas 6 ouvrages réalisés dans la province du Maniema sur les 103 attendus. Damien Mama donne ses appréciations dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga.
Monsieur Damien Mama, bonjour.
Bonjour madame.
Après une année de travaux, Safricas revient de vous remettre quelques ouvrages réalisés dans le cadre du PDL 145 territoires. Comment appréciez-vous ces travaux?
Effectivement, ça a pris à peu près une année pour avancer dans les travaux et je suis très heureux de voir que nous avons à peu près 5 infrastructures qui sont déjà prêtes sur les 103 pour la province du Maniema. Et nous avons symboliquement remis l'école primaire Lomamba dans le territoire de Kailo au gouverneur et nous allons poursuivre la remise du reste des infrastructures dans cette semaine. Mais en plus des 5 infrastructures, il y a une bonne partie qui a progressé. Vous avez vous-même constaté lorsqu'on s'est arrêté à Kampala, toujours dans le territoire de Kailo. Il y a un hôpital qui est prêt, mais parce que ce n'est pas encore équipé, on ne remet pas. Et nous avons beaucoup de travaux qui ont avancé dans l'ordre de 90%, 80% par là. Et nous allons continuer à remettre chaque mois, une fois que ces infrastructures sont progressivement prêtes. Les travaux que j'ai vus hier sont de très bonne qualité et ça reflète un peu les normes que nous avons dictées dès le départ. Et les entreprises sont donc appelées à se conformer à ces normes au cahier de charge, de sorte que les infrastructures qui sortent de terre dans le cadre du PDL 145 territoire dans le Maniema puissent respecter les normes qui ont été instituées par le gouvernement, mais qui respectent aussi les standards internationaux.
Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres ouvrages à livrer. Est-ce que c'est encore dans les délais?
Bon, en fait, tout le programme dans son ensemble n'est pas dans les délais. Vous savez, on fixe un délai. Et puis, face aux défis logistiques, climatiques, sécuritaires, un peu partout, on est obligé d'ajuster. Mais quand on regarde le niveau des défis par rapport au travail qui est maintenant fait, je peux bien sûr nous féliciter d'être dans des délais raisonnables. Pas les délais initiaux, mais des délais raisonnables, parce qu'il faut bien sûr s'assurer que le cahier de charge est respecté. Et vous savez, ici, on est confronté dans le Maniema à une pénurie de matériaux de construction. Ça prend du temps pour être acheminé de localités environnantes comme le Nord Kivu, la Tchopo. Donc, dans ces conditions, ça prend plusieurs semaines, voire avoir plusieurs mois pour acheminer du matériel et cela joue aussi sur les délais. Mais je peux vous rassurer qu'une fois qu'on a commencé, on est en train de progresser. Nous faisons la pression sur les entreprises pour accélérer et c'est ce que les autorités provinciales nous ont demandé et c'est ce que nous voulons d'ailleurs. Donc on va accélérer et s'assurer que nous fassions le reste des travaux dans des délais raisonnables.
Sur une centaine d'ouvrages à remettre, seulement 5 ou 6 qu'on vient de vous remettre, vous êtes satisfait de ça?
Mais bien sûr, parce que nous ne remettons pas les infrastructures tant qu'elles ne sont pas totalement finies et équipées. Je vous ai dit, on a une vingtaine qui sont à des niveaux de réalisation qui peuvent même permettre aux enfants de les occuper. Mais les standards du PNUD sont tels que nous ne pouvons pas remettre une infrastructure qui n'a pas les classes finies, les plafonds terminés, les toilettes finies, les conteneurs d'eau complètement finalisés, les sanitaires posés. Donc on veut s'assurer quand même que tout est là. Et c'est parce que on veut s'assurer que tout est là que nous sommes obligés parfois de retarder un tout petit peu la remise, mais en termes de progression, les travaux progressent.
PNUD, dans le cadre d'exécution de ce projet, vous financez ces travaux dans presque 9 provinces. Quelle est la situation dans les autres provinces?
Bon, le PNUD est concerné par 9 provinces et 54 territoires. Et les travaux avancent globalement bien dans l'ensemble. Sur l'ensemble, on a à peu près une cinquantaine d'infrastructures qu'on remet ce mois et ça va se poursuivre ainsi dans les mois à venir. Et nous sommes confiants que nous allons atteindre les objectifs qui ont été fixés selon l'accord que nous avons conclu avec le gouvernement de la RDC.
Monsieur Damien, le prestateur des fois accuse PNUD de n'avoir pas honoré la facture de leurs prestations et ce qui leur pousse parfois d'arrêter les travaux. Est-ce que vous avez pu régler ces problèmes ici?
Bon, vous savez, le PNUD a toujours payer ses prestataires. Et donc, lorsque les entreprises arrivent à 20% et qu'on doit leur payer 40%, on doit vérifier d'abord que ce qui a été réalisé est effectif. Donc, tous ces processus font croire à certains que, bon, il y a des retards dans les paiements.
Monsieur Damien Mama, merci.
Merci, madame.
Et c'est par ici que je tire les rideaux de cette édition d'information sur Radio Capi, mise en onde par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Richard Junior Kamunga. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.